Bien chers amis, notre sujet du jour est titré Servir et sauver. Et tout le long du développement, nous allons voir que le serviteur est aussi sauveur et réciproquement. En effet, quiconque rend un service sauve aussi à certains égards, car celui qui a besoin de notre aide est en situation certainement difficile et quand on l'en sort, il est délivré, il est sauvé et alors le serviteur est certainement sauveur et le sauveur a sauvé parce qu'il a servi. Ainsi, la leçon est divisée en 5 parties. La nation servante de Dieu, un serviteur non identifié, un Messie père, de l'espérance avant l'heure, un serviteur compatissant et souffrant. Voyons la première partie. La nation servante de Dieu. Et texte proposé, c'est Ésaïe, chapitre 41. Selon le point de vue de l'auteur et suivant l'endroit où l'on se place, Ésaïe 41 peut être divisé en plusieurs parties, entre autres les 3 dont nous allons parler. D'abord, verset 1 à 7, qui est la continuation du chapitre 40 et notamment la déclaration et la constatation de la puissance de Dieu et du néant des créatures. En outre, versets 8 à 16 qui établit les relations d'Israël avec l'Éternel. Et enfin, les versets 17 à 20 qui nous propose le désir de Dieu pour tout cela qui s'approche de lui. Israël doit mettre sa confiance en l'Éternel. Ésaïe, chapitre 41. Dans Ésaïe, chapitre 41 et le verset 8, Dieu parle d'Israël, mon serviteur. Et voici exactement les termes. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ésaïe 41, verset 8 et 9. Qui est ce serviteur? Obligatoirement, c'est Israël, la race d'Abraham, le descendant de Jacob. Et c'est la nation israélite. Oui, c'est la nation israélite. D'ailleurs, on trouve 2 sortes de références aux serviteurs de Dieu tout au long de Ésaïe 41. Jusqu'à Ésaïe 53. C'est Ésaïe 41 qui nous intéresse maintenant. Et l'une de ces deux références s'appelle Israël ou Jacob, comme dans Ésaïe 41:8 que je viens de vous lire. Parce que Dieu s'adresse à Israël au présent, il représente clairement la nation à laquelle ce dernier a donné naissance. Ce qui est confirmé par le fait que la rédemption de Jacob, son serviteur, s'accomplit au moment où ce dernier doit partir de Babylone. Nous voyons Israël en confrontation avec des ennemis non mentionnés, mais dont nous avons déjà l'identité dans les leçons précédentes. ce sont certainement les Assyriens et les Babyloniens. Et Dieu de chercher à cultiver la confiance d'Israël en la personne de son Créateur et Maître, qui est l'Éternel lui-même, et en montrant à Israël qu'elle sera, ou bien qu'il sera, vainqueur. De fait, il lui a dit, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous vous rappelez, la semaine dernière, notre sujet « Consoler mon peuple » qui devait être étudié à la lumière des Assyriens, à la lumière des Babyloniens, à la lumière des Philistins et du péché en général. En effet, les quatre entités sont des ennemis. Babylone, la Syrie, le Philistin, le péché, ce sont des ennemis d'Israël. Toutefois, le Seigneur le réconforte, lui disant carrément, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. En effet, de ces quatre entités ennemies, trois sont déjà tombés presque pour jamais. C'est l'Assyrien, c'est le Babylonien, c'est le Philistin. Maintenant, nous les cherchons et ne les trouvons moins. Il reste un quatrième, c'est le péché. Mais le péché sera détruit, car il est bien dit dans 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et dans Apocalypse chapitre 21, c'est plutôt le chapitre 20, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Parce que l'Israël n'a rien à craindre. Et le verset 12 précise bien, tu les chercheras, il ne les trouvera plus. Ceux qui te suscitent des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Mais dans le même temps, le Seigneur a donné à Israël, son serviteur, certaines possibilités de combattre en vue de vaincre. C'est le verset 15, par exemple, « Je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. » Arrivé à ce point, le Seigneur décrit une situation chez ses vrais serviteurs. Voici cette situation. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la source aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le mythe et l'olivier. Je mettrai dans la vie stérile le cypress, l'homme et le buis tous ensemble, afin que mes serviteurs voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le sein d'Israël en est l'auteur. Ainsi, Israël, en tant que serviteur de Dieu, est aussi sauveur. Sauveur dans le sens que n'importe quelle personne qui veut trouver Dieu et demeurer en lui doit se placer à côté d'Israël pour manger le pain d'Israël et pratiquer la parole de Dieu donnée à Israël, en sorte que les deux forment un seul corps, attendant l'Éternel, qui doit s'avancer sur un char comme un héros puissant, tel que va nous décrire dans quelques instants, Ésaïe chapitre 42. Dans ce chapitre, l'Éternel parle de son triomphe sur les nations. Et voici, verset 13 à 17. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas et je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en pleine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Ces paroles qui s'accompliront d'une manière plus précise au retour de Jésus, quand il doit s'avancer comme un héros, excite à son ardeur comme un homme de guerre, et élever sa voix, jetant des cris, manifestant sa force contre ses ennemis, parce qu'il se sera longtemps gardé, il aura longtemps gardé le silence, et qu'il se sera tué pendant bien des temps. Ces paroles, avant leur accomplissement, doivent être précédées de travail, un travail tout spécial, que le même héros doit accomplir, cette fois-ci, pour le déguisement d'un serviteur. Ésaïe 42, verset 1 à 9. Écoutons. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme s'en réside. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent sa loi. Mais qui parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ce qui marche. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Afin qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ici, bien-aimé, le serviteur n'est pas vraiment précisé. Cependant, son travail est bien détaillé. Il procure la justice aux nations. Il poursuit ses desseins sans bruit et en douceur, mais il réussit. Ce serviteur est un maître. Il fait d'alliance entre Dieu et le peuple. Il apporte la lumière et l'espérance en guérissant les aveugles et en libérant les prisonniers. Et aussi, il met toute sa confiance en l'Éternel parce que celui-ci prend plaisir à le soutenir. Le serviteur dont il est question dans Isaïe 42, est certainement Jésus-Christ venant nous de l'Église. Car dans Matthieu 12, versets 15 à 21, nous lisons, Jésus était à Capernaum, dans une synagogue, dispensant ses enseignements. Puis, il partit de là et s'éloigna. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne protestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Ici, l'auteur de l'Évangile a cité Isaïe, non pas littéralement, mais de pensée, montrant bien que Jésus-Christ est celui qui a accompli la prophétie lue dans Isaïe chapitre 42. Or, nous savons que Jésus-Christ a été serviteur et sauveur. Il était venu pour servir et non pour être servi. Et toute sa vie fut passée au service de l'humanité. Il est le sauveur du monde aussi. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en ce Jésus ne périsse point. Ainsi, serviteur de Dieu qui écoutait l'Éternel et qui suivait ses instructions, veuillez vous placer dans l'esprit de Jésus afin que vous aussi soyez non seulement serviteur, mais aussi sauveur. Pas sauveur précisément à la manière éternelle, mais sauveur à la manière temporelle, mais qui conduira à l'éternel. En effet, lorsque nous éclairons les hommes de notre évangile, lorsque nous leur apportons secours dans leur détresse, lorsque nous nous mettons à leur disposition quand ils ne savent où aller et qui appeler, certainement, nous leur rendons service et nous sommes leurs serviteurs. Mais du même coup, quand nous parlons de l'évangile de Jésus-Christ, nous orientons les cœurs vers Jésus, nous les guidons vers le salut. S'ils acceptent ce salut, ils seront effectivement sauvés. Certes, Jésus est le sauveur par excellence, puisque c'est lui qui ôte le péché du monde. Mais celui qui a conduit à Jésus est en quelque sorte sauveur aussi, parce qu'il a aidé un perdu à trouver le salut. La troisième partie de la leçon nous parle d'un Messie perse. Un Messie, c'est qui? C'est un personnage spécialement désigné pour une œuvre spéciale. Nous connaissons le Messie par excellence, qui est Jésus de Nazareth. Toutefois, toute autre personne que Dieu désigne ou bien a désigné en vue d'une œuvre très particulière et loin aussi ou bien consacrée pour exécuter cette œuvre est également un Messie. C'est ainsi que nous entendons parler d'un Messie perse. À partir d'Ésaïe, chapitre 44, jusqu'au verset 26, jusqu'au chapitre 45, verset 6. De qui est-il question? Ésaïe 44, 25, où l'Éternel dit, « Moi, l'Éternel, j'anéantis les signes des prophètes de mensonge, et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages dit, je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à la vigne, dessèche-toi, je t'arriverai des fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. L'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Bien chers amis, la précision de cette prophétie nous étonne. Comment? Le ministère d'Ésaïe a duré de 745 à 685 environ avant Jésus-Christ. Après avoir mentionné un conquérant venu de l'Est et du Nord et impliquant que c'était une bonne nouvelle pour Jérusalem, Ésaïe a annoncé Cyrus avec précision en citant son nom et en décrivant ses activités. Ce dernier est effectivement venu du Nord et de l'Est de Babylone. Il a conquise en 539 avant Jésus-Christ. Il a effectivement servi Dieu et en libérant les Juifs de l'exil babylonien. Il a autorisé la reconstruction du temple de Jérusalem. Réfléchissez à la taille de cette prédiction dans le temps. Et dans l'année qui s'est écoulée environ 146 années, entre la mort d'Ésaïe et la chute de Babylone, il a prononcé sa prophétie un siècle et demi à l'avance. C'est comme si George Washington avait prédit que le général du nom de Dwight Eisenhower aiderait à libérer l'Europe en 1945. Du fait que les actes de Cyrus sont clairement prouvés par diverses sources anciennes, dont les chroniques babyloniennes, les propres informations sur le cylindre de Cyrus et la Bible, la précision de la prophétie d'Ésaïe ne peut être contestée. Ce qui renforce la foi de ceux qui croient, que les vrais prophètes reçoivent de Dieu des prédictions exactes, car notre Seigneur connaît l'avenir à l'avance. Le terme hébreu pour oint, ici, est celui dont dérive le mot Messie. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, il peut devenir un grand prêtre, oint, un roi israélite, oint, ou le Messie, le futur roi et libérateur David du Piléal. Dans la pensée d'Ésaïe, Cyrus était un roi futur, envoyé par Dieu pour délivrer son peuple. Mais il s'agissait d'un Messie inhabituel, parce qu'il n'était pas israélite. Il a conquis certaines des choses que serait le Messie, comme de vaincre les ennemis de Dieu et libérer son peuple captif. Mais ce pouvait être le Messie, parce qu'il ne descendait pas de David. En annonçant Cyrus, Dieu démontrait son caractère unique et prouvant que lui seul connaissait l'avenir. Il s'est également adressé à lui, « Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses cachées, afin que tu saches que c'est moi, le Seigneur, t'a perdu par ton nom. Bien, chers amis, le fait qu'Esaïe annonce Cyrus en le citant par son nom trouble ceux qui ne croient pas que les prophètes reçoivent des prédictions de Dieu. Pour y remédier, ils acceptent la théorie suivante. Un second Esaïe, un autre prophète vivant à l'époque de Cyrus, a écrit Esaïe 40, 41 jusqu'à Esaïe 66. Ainsi, le livre d'Esaïe serait coupé en deux, sort qui, selon la tradition, a été celui du prophète lui-même, car il nous est raconté que le prophète a été écartelé entre deux branches d'arbres par le méchant roi Manassé. Tout de même, il n'y a pas de témoignage historique attestant l'existence d'un second Esaïe. S'il avait existé, il aurait été étrange que la Bible ne le mentionne pas, parce que son message est extrêmement important et son art littéraire phénoménal. Même le manuscrit biblique le plus ancien, le rouleau d'Esaïe de Qumran, ne comporte pas de rupture entre Esaïe 39 et 40 qui indiquerait une transition introduisant l'œuvre d'un nouvel auteur. Le message fondamental d'Esaïe est le même tout au long du livre. Savoir faire confiance au vrai Dieu et à son libérateur messianique et non à d'autres puissances. Les érudits soulignent avec justesse qu'Esaïe déplace son attention de la période assyrienne dans Esaïe 1 à 39 à la période de la babylonienne au chapitre 40 et suivant. Mais nous avons vu qu'il est déjà question dans Esaïe 13, 14 et 39 d'une captivité babylonienne. Il est vrai que Esaïe 1 à 39 insiste sur le jugement et Esaïe 40 à 66 sur la consolation. Mais réconfort et encouragement divin abondent également dans les chapitres précédents et dans les passages ultérieurs, tels que Esaïe 42, 18 à 25, Esaïe 43, 22 à 28, Esaïe 48, 1 à 11, qui parle des jugements de Dieu concernant Judas qui l'a délaissé. En fait, les prédictions d'Esaïe sur un bien-être futur impliquent des souffrances entre-temps, même si la nation a dû affronter de terribles désastres. À cause de ses péchés, certains Israélites n'ont pas perdu espoir. Ils se sont accrochés aux promesses divines, telles que celles rencontrées dans Lévitique 26, versets 40 à 45, dont je vais vous donner lecture. Lévitique 26, versets 40 à 45. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux, et ils jouiront de ses sabbats pendant qu'ils resteront dévastés loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en leur bain. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Mon cher ami, mettez-vous en esprit à la place ancien hébreu en captivité à Babylone et qui se souvient constamment de la promesse écrite dans Lévitique 26, versets 40 à 45. Ils se sont accrochés à cette promesse. Ils ont prié, ils ont confessé, ils se sont lamentés, tel que Daniel. Et le jour de l'arrivée de Cyrus, ils sont contents parce qu'ils possédaient un volume ou bien un exemplaire du prophète Isaïe. Et certainement, avec l'arrivée de Cyrus, ils ont aussi vu leur délivrance parce qu'ils ont cru en l'Éternel. En effet, le bon Dieu ne déçoit jamais celui qui se confie en lui. Toujours, il a un acte de clémence en faveur de l'âme contrite. Toujours, il a en réserve une mesure de grâce et de miséricorde pour celui qui se confie en lui. Ainsi, si vous et moi, nous nous donnons entièrement à l'Éternel, toutes les promesses de la Bible deviendront nôtres parce que les promesses faites à un, à l'un, appartiennent à tous les autres. Et tous les hommes appartiennent à l'Éternel également, en sorte qu'il n'y a point de distinction, car en toute nation, celui qui craint l'Éternel et lui demeure fidèle, lui est agréable. Et maintenant, envisageons un autre serviteur et sauveur à nous présenter dans Ésaïe 49, versets 1 à 12. Ésaïe 49, versets 1 à 12. Nous vous en donnons lecture. Yves, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. » Et moi je dis, « C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Bien-aimé, la parole de Dieu est profonde. Elle est incompréhensible à certains égards, mais très intelligente à d'autres. Et le fait du bon Dieu, c'est que nous comprenions. C'est pourquoi, sachant que nous ne pouvons pas comprendre de nous-mêmes et tout seul, il nous donne le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous enseigne, qui nous rappelle les enseignements de Jésus, qui nous aide à saisir les lettres et même l'esprit de l'Écriture. Dieu appelle ce serviteur et le nomme dès avant sa naissance. Fait de sa bouche une épée et sera glorifié en lui. Il se sert du serviteur pour ramener la nation d'Israël vers lui, pour donner la lumière du salut au monde entier, pour servir d'alliance et libérer des prisonniers. Il existe beaucoup de points communs entre cette description et celle d'Ésaïe 42. où nous avons identifié les serviteurs comme étant le Messie, le Nouveau Testament voit en Jésus-Christ les attributs du serviteur lors de sa devenue. En effet, à sa première venue, il était venu pour sauver le monde de ses péchés. Il reviendra pour prendre avec lui ceux-là qui l'auront aimé. Oh, si ce serviteur est le Messie, pourquoi Dieu l'appelle-t-il Israël ici? Nous avons vu plus tôt que dans cette partie d'Ésaïe, le serviteur de Dieu, Israël ou bien Jacob, désire la nation. Mais ici, le nom Israël, sans référence, faites parallèlement à Jacob, s'applique clairement au serviteur en tant qu'individu, celui qui réconcilie la nation avec Dieu. Ce dernier est des incarnations ou la représentation idéale de la nation dont l'échec a compromis l'utilisation du nom d'Israël. Il est fait ici mention, pour la première fois, des difficultés inhérentes à la taille du serviteur. Il se lamente. C'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le chaos, la futilité que j'ai épuisé ma force. Idée dont il a fait écho dans Daniel. Un homme ayant reçu l'onction sera retranché, il n'aura rien. Mais il se raccroche à la foi. Oh, le Seigneur garantit mon droit. Mon Dieu détient ma récompense. Ainsi, Ésaïe entrevoyait un sauveur doté d'une véritable nature humaine, éprouvé comme tous les hommes, comme nous le sommes, et démontrant qu'il était celui qui initiait et perfectionnait la foi, une foi réelle et personnelle, qui dit encore, « Mon Dieu, quand plus rien d'autre de valable ne semble subsister. » Ésaïe 49, verset 7, est un verset surprenant. Je vous en donne lecture. Parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront. Des princes et ils se prosterneront. À cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Du Saint d'Israël qui t'a choisi. Oui, c'est un verset surprenant. Le serviteur est profondément méprisé, détesté par les nations, l'esclave des gouvernants. Pourtant, le Seigneur déclare, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause du Seigneur qui est digne de confiance, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Servir et sauver. Bien, chers amis, le but de toute vie, c'est de servir. Un homme qui refuse de servir est indigne d'exister sous le soleil. Évidemment, même dans son indignité, personne ne s'attaquera à lui. On cherchera plutôt à le sauver. Or, comment le sauver ? En lui enseignant la loi du service, en lui donnant l'exemple de l'esprit du service. Et si lui aussi, il est un homme digne de porter ce nom, certainement il deviendra un serviteur zélé, un sauveur attentionné. Et le but de la Bible en général pour chacun de nous, et de cette leçon que nous venons d'étudier, c'est que chacun de nous se mettre au service d'autrui afin de le sauver de ses dilemmes et de le retrancher de ses difficultés. Car celui qui sert ne fait que s'agrandir. Il grandit en Dieu. Il grandit en l'homme. Il devient grand puisque nul ne peut être grand s'il n'a pas servi avec un cœur désintéressé. Or, le serviteur de l'Éternel est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et parmi ces, entre guillemets, plusieurs, il y a des riches, des pauvres, des gens de toute catégorie. Et ceux qui se sont placés